Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Les enfants d'abord, nous sommes en partenariat avec l'UNICEF, avec Combini aussi ce soir, comme nous l'étions toute la journée sur France Inter avec l'UNICEF pour célébrer les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et quand on a cherché pour le téléphone sonne à quel thème on pourrait s'accrocher, ce sont les jeunes qui l'ont suggéré eux-mêmes dans leur discussion au cours du conseil UNICEF des jeunes. Sont venus naturellement ces thèmes à la frontière du genre et de l'éducation, des thèmes qui les concernent, dont ils ont le sentiment que les adultes que nous sommes ne savent pas les aborder ou que l'éducation nationale ne sait pas s'en emparer. L'éducation sexuelle et particulièrement le consentement, surtout, leur semble oublié ou maltraité. Ils veulent que l'obligation de 3 séances d'éducation sexuelle au collège et au lycée soit effective, que le consentement y soit abordé de front, parce que qu'est-ce qu'on sait de la sexualité quand on a 14, 15, 16 ans? Qu'est-ce qu'on sait de sa sexualité? À qui on en parle? Est-ce qu'on sait dire non quand on a 17 ans et que c'est la première fois? Est-ce qu'on sait dire non quand on croit qu'on est amoureuse et qu'on a peur peut-être d'être rejetée? Est-ce que ne rien dire, ne pas formuler, c'est dire oui? Mais comment faire pour verbaliser réellement tout ça, pour mettre des mots sur des doutes et des questions? Ils ont réfléchi à tout ça. Les jeunes avec lesquels vous allez échanger ce soir, l'émission est à vous comme chaque soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Audrey, c'est vous la première. Bonsoir Audrey et bienvenue. Audrey ?
Allô ?
Ah voilà, Audrey, bonsoir.
Vous m'entendez ?
Allez-y, ouais, je vous entends.
Bonsoir. Je voulais vous remercier pour votre émission et merci d'avoir choisi ce thème qui est vraiment très important. Je voulais surtout apporter un témoignage. Moi, je vais avoir 31 ans. J'ai été très sensibilisée à tout ce qui est prévention contre les MST, les IST, mais on m'a jamais parlé de consentement. Mmh. Et en fait, j'ai réalisé il y a quelques semaines qu'on m'avait jamais dit que j'avais le droit de dire non à tout moment. On peut finir tout nu dans un lit et avoir le droit de dire non. Et en fait, j'en ai parlé à mon copain qui m'a dit on m'a jamais dit qu'une fille pouvait dire non à tout moment. Et donc, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent que quel que soit son âge, soit très jeune, très vieux, on a le droit de dire non quand on veut. Et du coup, voilà, moi je suis plus trop jeune, mais j'aimerais savoir...
Quand même encore un peu.
Les jeunes qui sont là ce soir, comment ils aimeraient que eux on aborde ces sujets, parce que je sais que c'est pas facile, et voilà, j'espère qu'on leur en parle plus qu'on en a parlé, et comment eux perçoivent les choses et comment ils aimeraient qu'on leur en parle.
Eh ben merci beaucoup Audrey, on va mettre votre témoignage sous verre parce que réellement, effectivement, vous abordez beaucoup de choses qui nous intéressent, au cours duquel on va tourner au cours de cette soirée jusqu'à 20h pour discuter ensemble. Je commence avec vous, Alice Ackerman, bonsoir. Bonsoir Alice, pardon.
Bonsoir.
Représentante jeunesse, je vous ai confondu les filles l'une l'autre, mais heureusement qu'on ne fait pas de télévision. Représentante jeunesse au planning familial, vous êtes animatrice de prévention en milieu scolaire, vous avez 20 ans. Vous allez nous expliquer d'ailleurs ce que vous faites dans les écoles, comment vous parlez justement aux plus jeunes. Bonsoir Marine. Marine Le Costumière, tu as 18 ans, membre du conseil des jeunes UNICEF France.
Oui.
En double licence philo et droit. Bravo. Amine Bidard, bonsoir Amine.
Bonsoir.
Membre du conseil des jeunes UNICEF France aussi, 18 ans et en terminale. Alors l'un après l'autre, moi j'aime bien le témoignage d'Audrey, effectivement, elle a 30 ans, donc à peine plus vieille que vous au final, mais 10 ans, ça compte pour la prise de conscience et pour ce qu'on fait dans les collèges et dans les lycées, pour ce qu'il y a dans l'air du temps aussi, qui fait que parfois on rajoute des choses dans l'éducation nationale. Elle n'a quasiment rien eu du tout. Et c'est, au fond, est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, à 20 ans, Alice, je vais commencer avec vous, que vous en saviez un peu plus que notre amie Audrey qui en a 30, en tout cas quand elle était, elle, au lycée?
En fait, je pense que ce qui a changé entre Audrey et moi, donc 10 ans d'écart, c'est la loi de 2001 qui a été instaurée, donc la loi Aubry, qui a instauré 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an.
Affective et sexuelle, on reparlera aussi de cette nuance-là, parce que c'est important, c'est une nuance qui a du sens. Ouais. Donc 3 par an, pardon.
3 par an, donc c'est sur toute la scolarité. Et donc moi, quand j'étais en collège et en lycée, cette loi était passée, mais elle n'est pas encore appliquée aujourd'hui. Donc ça dépend des départements, ça dépend des écoles. Donc moi, sur toute ma scolarité, j'en ai eu une.
J'allais vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour vous et en quelle classe d'ailleurs.
Donc j'en ai eu une en quatrième et j'en ai eu une en terminale. Donc c'est pas du tout ce que demande la loi, et ça montre qu'elle n'est pas appliquée. Et quand on demande demande, par exemple, on fait de la prévention en festival, au planning familial, et quand on demande en festival aux jeunes qui viennent s'ils ont eu une séance d'éducation à la vie affective et sexuelle, la majorité nous disent qu'ils en ont eu une, voire deux, mais ça ne va jamais plus haut que ça. Mmh.
Audrey parlait de... Moi, on m'a jamais expliqué qu'il fallait dire non. Est-ce que vous avez l'impression quand même, et je vous poserai aussi la question à vous deux, bien sûr, mais vous qui allez dans les écoles, Alice, est-ce que vous avez l'impression que là-dessus, on commence à bouger un peu? Enfin, il y a eu un rouleau compresseur ces deux dernières années, il y a MeToo qui est passé par là, ça a touché les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc est-ce que cette idée-là quand même en rentre dans les conversations alors que c'était pas le cas avant? Est-ce que même dans les conversations, vous sentez qu'il s'est passé quelque chose ou pas?
Oui, je pense qu'il y a vraiment une parole qui se libère par rapport à la question du consentement, à la question des violences sexuelles et sexistes. Mmh.
Donc même auprès des très jeunes que vous rencontrez, vous, 14, 15 ou 16 ans en fait, ouais.
Oui, bien sûr, et en plus il y a le sujet de la pornographie aussi qui est de plus en plus abordé et qui aborde en fait cette question du consentement et de la vision de la femme, la vision de la relation entre les femmes et les hommes. Mais pour autant, on l'aborde d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, par exemple, Audrey, dans son témoignage, nous disait qu'on lui a jamais appris à dire non. Mmh. Mais en fait, le consentement,
on lui a jamais appris qu'elle avait le droit de dire non, ce qui est quand même un comble. Hein. Mais c'est même encore pire, en fait, au fond. Amine, tiens, je me tourne vers le garçon. Amine Bidard, est-ce qu'on vous l'a dit, vous, en cours, Amine, que je sais pas si on va arriver à se vouvoyer pendant toute la durée de ce téléphone sonne. On va plutôt arriver à se dire tu. Amine, est-ce qu'on te l'a dit à toi? Une fille, ça dit non, et quand ça dit non, c'est non. Est-ce que ça a été formulé? Même si tu le sais peut-être toi, parce que t'es un garçon bien, mais est-ce que ça a été formulé?
Alors moi, pour tout vous dire, j'aime beaucoup la nuance que vous avez énoncée tout à l'heure entre affective et sexuelle.
Absolument.
Parce qu'on m'a essentiellement parlé quand j'étais en cinquième, je crois, pendant un cours des SVT, de la vie sexuelle, mais uniquement à travers une vision très biologique. Mm-hmm. Et je pense qu'on n'a jamais évoqué le fait que effectivement une fille puisse à tout moment refuser que ça soit effectivement quelque chose dont elle n'ait pas envie, une pratique à laquelle elle n'adhère pas, ou tout simplement du fait qu'elle se sente mal sur le moment et que elle n'y soit pas disposée. Donc non, effectivement, je suis d'accord avec Audrey, c'est quelque chose, je pense, qui a manqué pendant un certain temps, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec la parole qui se libère et l'importance qu'on commence à accorder avec tout ce qui relève effectivement de l'éducation, tout simplement aux petites choses de la vie quotidienne et notamment de la sexualité, on va peut-être arriver dans les écoles à avoir de meilleures informations
pour les jeunes. Je vais finir ce tour de table. Merci Amine. Marine, à 18 ans, pareil, et là aussi, de ce que j'ai cru, de ce que j'ai vu, personne ne vous a jamais parlé de consentement, mais vous avez eu, vous, un cours d'éducation sexuelle. Est-ce que ça ressemblait à celui d'Amine, au fond, c'est-à-dire quelque chose de purement biologique? Et puis, effectivement, il a raison, Amine, tout ce qui touche à l'affectif est complètement évacué, alors que normalement, c'est quand même par là que ça commence, théoriquement.
Alors, moi, je fais partie des chanceuses qui ont eu des intervenantes qui étaient très ouverte à la discussion et où en fait on a vraiment pu aborder dans la majorité des cas le maximum de sujets possibles. Mais bien sûr, il y a toujours cette nécessité de commencer par les bases, c'est-à-dire la prévention contre les IST, les grossesses, comment faire si jamais on en développe une ou si on tombe enceinte.
Et ce que ça veut dire, c'est qu'on parle de la peur, donc la maladie, les grossesses précoces, etc. Mais donc on parle pas du plaisir, on parle pas de l'envie, on parle pas de l'affectif, on parle de rien de tout
non,
ça.
Non, bien sûr, mais ça, je pense que c'est surtout aussi lié à la contrainte de temps. Parce que finalement, les intervenants, quand ils viennent en classe, c'est pour 2 heures. Et en 2 heures, ils doivent parler de sujets très importants. Et en même temps, répondre aux besoins de la classe qui, parfois, peut avoir beaucoup de questions sur tout ce qui est les règles, les choses comme ça. Donc, les notions de consentement, de vie affective, et finalement, ça revient à une sorte de bonus si on a le temps et c'est pas mis en avant par les intervenants nécessairement.
Allez, je veux pas qu'on oublie qu'il y a des auditeurs qui nous attendent. Bonsoir Anna.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Anna.
Oui, j'avais une question pour ces deux jeunes. C'est surtout...
Ils sont trois.
Ah pardon, oui, pardon les trois. Comment faire pour aborder cette question justement du consentement avec les plus jeunes et ceux qui sont peut-être pas aussi développés que nous en tant qu'adultes?
Merci Anna pour cette question, c'est plutôt pour vous, pour toi Alice qui travaille au planning familial. Comment on fait avec les plus jeunes? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a des choses particulières en fonction de l'âge?
Oui, alors en fait, le consentement, il n'aborde pas que la sexualité, non. Il aborde le rapport au corps. Donc, si on aborde la question du consentement à l'âge de 3 à 4 ans, on va parler du rapport au corps, les limites qu'on met à son corps.
Est-ce qu'on peut en parler dès l'âge de 3 à 4 ans?
Bien sûr, il faut en parler dès l'âge de 3 à 4 ans. Les violences, elles existent à tous les âges, dans tous les milieux, et il faut vraiment le prendre en compte. Et on sait par exemple que dans d'autres pays, comme au Canada, la prévention et le thème du consentement est abordé dès la maternelle avec des exercices. On parle souvent du fait qu'ils apprennent à se brosser les cheveux entre eux et à dire stop quand ça fait mal, par exemple. Et c'est ça qui est important aussi de prendre en considération. C'est quand un parent va parler à son enfant de consentement pour le sensibiliser à des potentielles violences qui peuvent arriver. En fait, on peut parler juste du rapport au corps.
Mais toi, tu vas dans les écoles, par exemple, notamment. Est-ce que c'est plus facile, au fond, pour un jeune de te parler à toi, j'imagine, que de parler à la personne qui viendra faire ce fameux cours d'éducation sexuelle qui existe ou qui n'existe pas? Est-ce que tu as vraiment le sentiment, lorsque tu y vas, que les jeunes sont en attente d'un dialogue et surtout d'un interlocuteur qui leur ressemble, qui a le même âge qu'eux et qui peut avoir les mêmes problèmes qu'eux?
Oui, je pense que l'approche de pair à pair, elle est vraiment centrale en fait pour libérer la parole. Et c'est ce qu'on fait au planning. On essaie de former, et ce qu'on fait comme partenariat avec UNICEF, donc de former des jeunes à aller eux-mêmes et elles-mêmes dans les lycées, les collèges et les primaires pour pouvoir en parler et en discuter.
Parce que Amine, moi je me pose la question. Alors moi je suis très vieille, mais si j'étais en cours aujourd'hui et que j'avais votre âge, je ne sais pas si j'oserais poser ce genre de questions-là. Alors j'ai sûrement tort, mais je ne sais pas si j'oserais poser ces questions-là à la personne qui est chargée de ces cours-là, encore moins à un prof ou à l'infirmière scolaire. Est-ce que c'est le bon interlocuteur au fond? Parce qu'on dit toujours, ah mais l'éducation nationale ne fait pas son travail. Normalement, effectivement, il y a ces trois cours obligatoires qui n'ont pas lieu. Bien sûr que c'est la base, mais est-ce que c'est vraiment de l'éducation nationale que vous avez envie d'entendre cette information,
Amine? Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a de toute évidence un rôle majeur dans la prévention, notamment par exemple dans la prévention routière. Et le fait que le consentement soit évoqué à l'école, pour moi, est une très bonne chose, puisque c'est effectivement le premier lieu d'enseignement en France. Et je pense que effectivement, il y a une sorte de tabou qui tourne autour un petit peu de l'éducation sexuelle, peut-être dans une partie des lycées, sachant qu'aujourd'hui, quand on regarde le rapport de HCE de 2016, on a 25% des établissements en France ayant répondu.
HCE?
HCE, oui.
Ça veut dire quoi, HCE?
C'est le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Okay.
25% des établissements en France ayant répondu à ce formulaire, à ce questionnement, à ce sondage, admettent le fait qu'ils ne mettent rien en place. Et je pense que ce qu'on doit faire aujourd'hui avec cette campagne, c'est pas isoler un grand acteur de l'éducation, mais plutôt l'accompagner. Et mettre en avant les côtés bénéfiques de cet enseignement particulier qui va permettre d'avantager un grand nombre d'élèves.
Romy, bonsoir.
Bonsoir. J'avais une question pour les membres du conseil UNICEF des jeunes, qui est qu'est-ce qui a déclenché chez vous votre prise de conscience sur le sujet?
Merci Marine, merci Romy et Marine, pardon, tu fais ça à l'envers. Qu'est-ce qui a déclenché ta prise de conscience à toi?
Alors en fait, c'est tout simplement l'actualité avec les phénomènes MeToo, Balance ton porc. On a eu cette libération de la parole des victimes de violences sexuelles, de viols, d'harcèlement. Et en fait, on a été dans cette action de régler les conséquences d'un problème, et nous justement on voulait agir à la racine. C'est-à-dire que en fait il ne suffit pas simplement d'apporter une aide aux victimes, de libérer leurs paroles, de les écouter, il faut aussi prévenir cet harcèlement, cette violence, et ça passe par tout simplement l'enseignement du consentement. L'enseignement du consentement pour apprendre à dire non, mais surtout à apprendre à repérer les signes, disant que notre partenaire, quel qu'il soit, dans n'importe quelle situation, parce que ça ne relève pas seulement des activités sexuelles, c'est reconnaître des signes qui vont dire finalement la personne n'est peut-être pas si encline que ça à vouloir partager ça avec moi.
Est-ce que c'est des choses qu'on peut repérer Alice Ackerman, effectivement, quand on est comme vous, qu'on les voit, ces jeunes-là, est-ce que ce genre de discussion, justement au détour d'une discussion sur le consentement, on sent qu'il y a un fil à tirer chez l'un de ces gamins, parce qu'ils sont tous très jeunes, plus jeunes que vous, est-ce que ça arrive très souvent, ça, ou pas?
En fait, statistiquement parlant, on sait qu'une femme sur cinq va vivre des violences sexuelles et sexistes dans sa vie. Et on sait aussi que environ un enfant sur 30 va être victime de pédocriminalité. Donc quand je vais dans une classe, je sais que dans cette classe, il y a sûrement des personnes qui vont être victimes ou qui sont déjà victimes. Donc comment on les repère ? Il y a la communication verbale, donc des personnes qui, ça arrive quasi systématiquement, des personnes qui, des jeunes de mon âge ou plus jeunes, qui disent bah, « j'ai été victime, il m'est arrivé ça », et du coup libérer leur parole dans le collectif. Mais ça peut être aussi une communication non verbale, c'est-à-dire des jeunes qui vont se replier pendant la conversation. C'est une séance d'éducation à la sexualité, c'est très large, on peut parler d'IST, de grossesse, etc. Puis quand on arrive à cette discussion-là sur le consentement ou sur les violences, bah, on voit des jeunes se replier, regarder par terre, mettre les bras autour du corps, etc. Et là, clairement, on sait que soit la personne elle-même, soit une personne de son entourage a été victime. Et notre rôle en tant que personne du salarié du panier familial et bénévole du panier familial, c'est de pouvoir leur donner l'opportunité d'en parler avec nous, en collectif ou aussi en individuel.
Et il y a une suite, en général, c'est un bon repérage, ces séances-là qui peuvent se faire à l'école ?
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que soit pendant l'animation, les jeunes vont pouvoir en parler et du coup échanger, ou alors on peut aussi, à la fin, venir vers eux ou vers elles et leur dire est-ce que vous voulez venir dans les locaux du planning pour en discuter. Et parfois, si l'un et l'autre ne fonctionnent pas, parce que c'est très difficile en fait de libérer cette parole-là, vu le silence et la culture du viol dans laquelle on vit, on peut aussi alerter l'infirmière scolaire du lycée et lui dire dans telle classe, on pense qu'il y a quelqu'un qui aurait peut-être besoin qu'on parle de ces sujets-là et trouver d'autres manières détournées d'aborder ce sujet.
Alors justement, on dit un peu depuis tout à l'heure que l'éducation nationale a parfois du mal à mettre les pieds dans ce genre de conversation. Je voudrais qu'on écoute Sophie. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Sophie.
Merci. Oui, moi je voulais juste intervenir pour dire que peut-être que ça commence juste, mais l'éducation nationale, elle commence à faire des choses. Nous, depuis quelques années, alors moi je suis conseillère d'éducation, je suis CPE, et avec le planning familial, le GEDIF, l'infirmier scolaire, l'assistante sociale, on organise des séances sur justement le thème du consentement. Et on utilise pour ça une vidéo que j'invite tout le monde à regarder, c'est sur YouTube, ça s'appelle la tasse de thé, c'est mis en place par les Québécois.
Il y a Alice qui fait oui avec la tête, visiblement c'est très très connu le coup de la tasse de thé, allez-y racontez-nous.
Et en fait c'est juste quelqu'un qui explique avec un accent un peu québécois que lorsqu'on propose à quelqu'un de prendre une tasse de thé et qu'il dit oui, au moment de la boire quand il en veut plus, il faut pas insister.
Ouais.
Et en fait, ça dure 2 minutes 53, c'est vraiment pas long, c'est très parlant, puis c'est surtout que ça nous fait une bonne base de débat par rapport à nos élèves, et après ils expliquent ce qu'ils ont compris, etc. On fait aussi une petite scénette, on leur fait lire une petite scénette sur un garçon qui revient d'une soirée et qui explique à son frère qu'en fait, il a eu des relations avec une fille et qu'il a des doutes sur le fait qu'elle était vraiment consentante ou pas. Et là, ça engage vraiment des vrais débats entre les garçons et les filles. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Alors c'est vrai que c'est arrivé tard, parce que ça fait longtemps qu'on attend, mais il y a des choses qui se font.
Vous dites arrivé tard, ça fait combien de temps par exemple que vous faites ça, vous, dans votre lycée, Sophie ?
Nous, ça fait 4 ans.
Ok.
Donc c'est assez récent, alors peut-être que d'autres l'ont fait avant, mais nous on a vraiment misé là-dessus, parce qu'effectivement les cours plus techniques, nous on a quand même un médecin avec nous du planning familial, donc tout ce qui est technique elle est là pour répondre aux questions. On a aussi la chance de très bien s'entendre, donc chacun trouve sa place et c'est plutôt chouette.
Et Sophie, une dernière chose, après je vous laisse, c'est promis, est-ce que vous avez le sentiment que depuis 2 ans justement que tous ces sujets sont vraiment rentrés dans la conversation, c'est plus facile d'en parler avec les jeunes parce que eux aussi au fond, on lâchait un peu les tabous qu'ils pouvaient avoir autour de ces conversations-là.
Oui, les filles, oui, tout à fait. Les garçons, ils ont du mal à... Ils ont du mal
à verbaliser.
Oui, puis à avaler tout ça aussi, parce que c'est pas dans leur éducation qu'ils avaient eu jusqu'à maintenant. Donc je pense que cette génération, elle va être plus chouette que les précédentes. Enfin, les générations de garçons, ils ont mieux compris, parce que j'espère qu'on leur explique bien. Donc je l'espère. J'ai beaucoup d'espoir en tout cas.
Merci beaucoup Sophie, vous avez raison d'avoir de l'espoir parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est vrai, Amine, que c'est peut-être plus compliqué de parler de ces choses-là chez les garçons que chez les filles.
Alors... Je parle d'un point de vue bien sûr personnel, puisque je ne représente pas la génération des...
Non, non, et ni tous les garçons d'ailleurs.
Voilà, des garçons. Mais c'est vrai qu'en tant que garçon, j'ai eu du mal au début, en tout cas, parce qu'on a eu une rencontre avec le planning familial qui est venu nous sensibiliser sur ce sujet, nous le présenter, nous l'expliquer, le développer. J'ai eu du mal au début à effectivement relâcher un petit peu cet instinct de repli sur moi-même et finalement de m'ouvrir et de comprendre qu'en fait c'est dans mon intérêt que je dois apprendre à connaître un petit peu ce qu'est le consentement, ce qu'est réellement la sexualité. Et en tout cas, c'est vrai que personnellement, en tant que garçon, j'ai trouvé ça au début, j'ai trouvé ça difficile.
Mmh. Marine, comment ça se passe entre filles et garçons quand on a ce genre de discussion? Est-ce que vous aussi, est-ce que toi aussi, t'as eu le sentiment dans ces cours-là, dans ces dialogues-là entre garçons et filles, que au fond, vous les filles, ça vient plus facilement, c'est plus compliqué d'emmener les garçons dans cette conversation ou pas?
Alors,
pas forcément.
En fait, je pense que pour une fille, ça va être plus facile d'aborder ce thème-là et d'avoir une vision, disons. Objective, puisqu'on est directement touché, et beaucoup plus facilement touché, même s'il reste à rappeler que des garçons sont victimes d'agressions.
Évidemment.
Tout autant.
Évidemment.
Et
mais celle qui doit dire non, à un moment, c'est vous. Donc,
c'est ça aussi. Mais moi, personnellement, j'ai remarqué, j'en ai discuté avec des amis récemment, c'est que on est vraiment dans cette dynamique qui est de plus en plus ouverte aux échanges, au partage de témoignages. Et mes amis garçons, ils sont vraiment ouverts à cette thématique et ils sont dans cet effort de vouloir comprendre. Et c'est finalement très rassurant et ça fait du bien de savoir qu'on essaie de nous épauler aussi.
J'aime bien l'idée de faire l'effort d'essayer de comprendre Alice Ackerman aussi, parce que oui, ils l'ont aussi pris de plein fouet, après tout, les jeunes gens, tout ce qui a pu se passer depuis 2 ans. Donc expliquez-nous comment ça marche. Au fond, c'est aussi ce qu'ils demandent eux, et aux filles d'être parfaitement explicites, au fond, et de dire, bah oui, voilà comment ça marche, voilà ce que tu dois comprendre, non?
En fait, oui, et surtout qu'il faut avoir en tête que le consentement, c'est pas un principe si simple, parce que là, on fait que répéter dire non, mais le consentement, c'est aussi dire oui. Et parfois, il y a des situations où il y a on dit pas non, on dit pas oui, et du coup, les personnes qui sont en situation, que ce soit des filles ou des garçons, on a du mal à lire la situation.
Ouais, il y a une vraie question sur est-ce que le consentement doit être affirmatif ou considéré comme acquis à défaut d'être un non. Et évidemment qu'on marche un peu sur une crête là-dessus. On a aussi le droit de dire oui et puis non, d'ailleurs. Et normalement, ça s'arrête après le non. Il faut aussi le repérer.
Et aussi, ce qui est intéressant, ce que disait la CPE, c'était que la question de décrire des situations, de mettre des mises en situation lors des animations scolaires, ça permet aussi d'entrer dans la complexité de ce qu'est le consentement et la définition même du consentement.
Et qui est difficile à définir, d'ailleurs. L'âge n'a d'ailleurs pas été fixé. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses qui sont évidemment moins cartésiennes que ça en a l'air. Marine, j'ai vu que très sagement, tu levais la main, c'est bien.
Oui, ensuite, la notion de consentement. C'est du coup une notion complexe et je pense que c'est tout l'intérêt d'éduquer à la vie affective, en fait, c'est d'apprendre à connaître ses sentiments, à les comprendre et à les partager. Ça passe aussi par une connaissance de soi, de pouvoir dire non, de
et
pouvoir dire oui.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on sait si on est amoureux, si on n'est pas amoureux, donc si c'est le moment ou si c'est pas le moment, Amine, qui lève le doigt aussi. Bravo à tous, je vous félicite.
Je pense aussi surtout qu'il y a une véritable problématique, c'est-à-dire que si l'éducation nationale ne met pas en place quelque chose pour éduquer ses enfants par rapport à effectivement la vie affective et sexuelle. Mmh. Alors qui le fera? Et vers qui ces enfants, ces jeunes qui effectivement sont dans le lycée, qui est le lieu justement dans lequel ils rentrent un peu en contact avec ce monde de la sexualité, du mélange entre filles et garçons, vers qui ils vont se tourner? Eh bien vers effectivement des personnes peut-être malveillantes.
Mmh. Ou alors sur internet et avoir des infos qui sont jamais tout à fait fiables et dont on ne sait jamais tout à fait d'où elles sortent. Il y a beaucoup de monde au standard, tant mieux. Bonsoir Françoise.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Françoise.
Oui, mais simplement je voulais dire que je suis d'origine belge et qu'il y a maintenant 50 ans, j'avais 13 ans et on a eu des cours d'éducation sexuelle avec une libre discussion en classe où on nous a appris pas seulement la théorie, mais qu'il fallait du sentiment, qu'il fallait être deux à être d'accord, et que s'il n'y avait pas de l'amour, c'était pas intéressant. Et c'était un cours, ça s'appelait la morale. Et c'était, une libre discussion en classe sur ce sujet-là. Et il y a de ça 50 ans, alors ça me choque chaque fois ici quand on entend dire qu'il y a des difficultés à avoir des cours d'éducation sexuelle.
Est-ce que vous avez des enfants, Françoise, et qui ont fait leur scolarité en France ou pas? Juste pour que vous puissiez avoir une vraie comparaison, en fait.
Oui, j'ai deux garçons et qui ont fait leur scolarité et qui ont eu des cours d'éducation sexuelle c'était au lycée, je pense. Et qui, c'était des rires gênés, et puis ils ont pas vraiment appris grand chose.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Françoise Alice Ackermann. On est très en retard par rapport à nos voisins ou pas? Est-ce que les autres sont meilleurs que nous? On parlait des Québécois tout à l'heure qui ont l'air effectivement plus en pointe. Est-ce qu'on est les seuls ou est-ce que tout le monde a le même problème que nous?
Je pense que ça dépend des continents, ça dépend des pays. En effet, si on se compare au Canada, oui, on est en retard. Après, si on se compare à d'autres pays, on est en avance. Après, nous, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que la France, on essaie d'être de plus en plus des leaders sur la question du féminisme. Il y a Marlène Schiappa, la secrétaire d'État des droits des femmes, qui parle de diplomatie féministe. On a accueilli le G7 l'année dernière. Cette année, on va accueillir la conférence internationale de Pékin plus 25. Du coup, si nous, on veut être des leaders sur la question du féminisme, il faut aussi qu'on applique les lois qu'on a fait voter. Et du coup, cette loi de 2001, ça fait maintenant presque 20 ans qu'elle a été votée. Il serait important que le gouvernement français fasse en sorte qu'elle soit réellement obligatoire et qu'il y ait, donne les moyens à la fois financiers et humains pour qu'elle soit mise en application dans tout le territoire.
Voilà, tiens, jeunes gens, on reçoit des appels au standard disant qu'on est trop hétérocentré. Ils ont raison. Je voudrais vous donner ce mail d'Hélène sur franceinter.fr qui dit: l'homosexualité et la bisexualité sont-elles abordées lors de ces interventions sur la vie affective? En effet, ma fille, jeune homosexuelle, s'est sentie encore plus différente après l'une de ses interventions. Elle était très mal à l'aise car n'étaient abordés que les rapports filles et garçons. Est-ce qu'on y fait très attention? Je m'adresse à vous d'abord, Alice, parce que vous les donnez, ces cours-là. Est-ce qu'on fait très attention à ça et qu'on s'adresse, oui, qu'on n'est pas trop hétérocentré comme nous le sommes peut-être ce soir?
Alors du coup, nous, au planning familial, on fait extrêmement attention à ça. On essaye de parler du coup de cette question de l'hétéronormativité et de faire en sorte que quand on parle de consentement et quand on parle de façon générale d'éducation à la vie affective et sexuelle, on parle de toutes les identités de genre et de toutes les orientations sexuelles, et aussi de travailler sur la question des LGBT-phobies. Après, ça dépend des personnes qui vont venir dans l'établissement, parce que le planning familial n'est pas la seule association agrémentée, et du coup, il y a des associations qui vont venir et qui vont porter un message différent. Et du coup, là, ça revient à la responsabilité de l'État de s'assurer que les messages qui sont transmis sont corrects et en accord avec les valeurs françaises et aussi bienveillantes et respectueuses.
Amine, là-dessus, est-ce que là aussi, j'imagine que des camarades qui sont gays, tu dois en connaître un certain nombre, est-ce que la parole est aussi facile pour eux? Est-ce qu'au contraire, effectivement, il y a ce sentiment d'être écarté de ces conversations-là? Est-ce que du coup, vous avez, vous, les moyens de rattraper, si j'ose dire, et d'en parler entre vous, est-ce que ça manque selon toi ou pas?
Je pense que ça manque énormément, effectivement, puisque à travers déjà non seulement les cours biologiques qu'on évoque particulièrement en fait effectivement des relations entre hétéros, mais aussi que l'homosexualité est, je pense, un peu parfois absente. Dans certains cas, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas, franchement, je trouve, on a une communauté homosexuelle et bisexuelle qui s'exprime énormément et qui est extrêmement visible. Et pour, effectivement, j'ai énormément d'amis gays et jusque-là, pour l'instant, j'ai vu des personnes qui, voilà, n'avaient pas vraiment l'air de se cacher. Mais effectivement, il y a toujours des gens qui souffrent, et ça, je pense qu'il faut le dire.
Et des SOS homophobie qu'on a beaucoup vu ici au téléphone sonne et qu'on reverra sans doute, et c'est tant mieux, qui va aussi dans les écoles pour essayer de sensibiliser Marine et de discuter aussi avec les élèves. Marine, qui voulait
Ensuite,
ajouter quelque chose.
Je pense qu'il est aussi de rappeler ce climat entre les jeunes directement, entre une classe. C'est pas forcément non plus facile pour une personne qui appartient à la communauté LGBTQI+, de s'affirmer dans ce collectif qui est souvent hétéro ou qui est du moins porteur ou vecteur de clichés hétérocentrés. Donc c'est aussi difficile de dans cette partie-là, et c'est, je pense, la responsabilité des intervenants à ce moment-là d'instaurer ce climat de sécurité pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Pas forcément pour parler, parce que ça revient encore à nous de choisir si on veut en discuter, mais au moins de ne pas se sentir exclu de la conversation.
Alice, attention à l'hétéronormativité, effectivement.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'était que en fait, dans le cas d'animation, en fait, quand on va parler de consentement, on va parler aussi de désir et de plaisir. Et quand on parle de désir, les réactions qui vont venir en fait des garçons dans la salle, vont dans l'animation, ça va être de dire le garçon a forcément du désir, et que s'il n'a pas désir, c'est, alors les insultes vont sortir, c'est un PD, etc. Et du coup, forcément, quand on parle de consentement, on va glisser aussi sur des propos qui sont parfois homophobes. Et en tant qu'animatrice et intervenante, c'est aussi de travailler sur cette question de l'homophobie, et forcément, toutes ces questions là sont interconnectées, en fait.
Gilles, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Gilles.
Oui, on a entendu beaucoup de choses et votre émission est vraiment très très intéressante. Et puis je remercie vos intervenants qui, je suis un petit peu plus âgé qu'eux, donc avec un petit peu plus de recul, mais en tout cas ils ont des positions très affirmées et c'est très rassurant, je trouve, d'entendre des propos comme ça. Je voulais simplement moi prendre la parole pour dire que en tant que papa, j'ai deux ados à la maison et plutôt que d'évoquer avec eux le sujet qui est très difficile pour des parents de la sexualité et des orientations sexuelles, ma femme et moi on a surtout choisi de discuter avec eux de cette notion du consentement. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont nous échapper en tant que parents, et c'est normal, c'est des choses qui vont leur appartenir. Donc on a effectivement, on essaye beaucoup de libérer cette parole autour du consentement, surtout bien leur rappeler qu'ils doivent absolument pouvoir en tout temps avoir le contrôle sur eux-mêmes, disposer de leur corps, et surtout essayer de faire en sorte qu'ils gardent le contrôle sur l'expression du consentement en leur expliquant que toutes les situations de la vie, que ce soit des soirées festives ou peut-être des mauvaises rencontres, effectivement, conduiront à ce que ce consentement ne puisse pas s'exprimer ou leur échappe. Donc on essaye de les ramener toujours là-dessus, sur exprimer votre consentement, dites ce que vous avez à dire et puis surtout disposez de vous-même.
Pardon, j'ai peut-être raté ce que vous l'avez peut-être dit, pardon Gilles. Ils ont quel âge vos ados ?
14 et 16 ans.
Et ce sont des garçons ou des filles ?
Alors j'ai une grande fille de 16 ans et un garçon de 14 ans.
Et cette conversation, par curiosité, elle a commencé quand, en fait ? Est-ce qu'elle a commencé au même moment pour votre ado, pour votre garçon que votre fille ? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on prévient la fille plus tôt ou le garçon plus tôt ? Comment on fait dans ces cas-là ?
Non, en tant que papa, on va s'inquiéter beaucoup plus pour la fille, ça c'est certain. Ça, c'est le tarif de base. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la discussion a commencé pour les deux enfants exactement en même temps. Il faut être clair, les mouvements MeToo ont aussi beaucoup libéré la parole parce que ça a été l'occasion pour nous, en partant du fait social qui était en train de s'exprimer, et bien justement d'amener toutes ces choses-là. Donc ça a été un biais pour nous pour pouvoir essayer d'amener ces choses-là et la discussion s'est engagée immédiatement.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Gilles. Et en effet, Alice Ackermann, vive MeToo, vive ce moment de déclenchement. Et exactement comme le dit Gilles, ça permet d'enclencher la conversation. Parce que souvent, ce qui est le plus difficile au fond, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On appelle les ados, on leur dit viens, il faut qu'on ait cette conversation. Là, ça rend les choses finalement beaucoup plus faciles, particulièrement pour cette génération-là peut-être.
Oui, alors MeToo, ça a déclenché une libération de la parole. Après, il faut quand même se rendre compte que, comparer des pays tout à l'heure, comparer aux États-Unis, la libération de la parole, elle n'est pas complètement aboutie en France.
C'est moins qu'on puisse dire, mais au moins peut-être que ça libère une conversation et ça forme de nouveaux jeunes gens, en fait, chez les garçons comme chez les filles aussi, peut-être, qui ont eu moins peur d'avoir eu cette conversation. Enfin, j'espère, en tout cas, que la génération précédente, après tout, non ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, quand on allume la radio comme France Inter, on va entendre des sujets, on va pouvoir en parler, en fait, de violences sexuelles, de savoir que ça existe et du coup de lever ce tabou-là, et c'est hyper intéressant d'avoir un parent qui en parle, parce que souvent cette question du tabou, elle est liée aussi à l'éducation qu'on a reçue, et avoir les parents qui se mobilisent et qui, parce que c'est difficile d'aborder ce sujet avec les enfants, de pouvoir l'aborder, c'est libérer un tabou et du coup de faire en sorte que ces jeunes puissent après s'en saisir et diffuser ça dans leur vie et chez leurs amis.
Marine, par exemple, est-ce que cette conversation a eu lieu avec tes parents ou pas ?
Disons que j'ai toujours été d'une certaine manière assez affirmée dans mes positions relatives au féminisme, au consentement, etc. Donc si je devais en discuter avec mes parents au cours de débats, de discussions...
Tu leur dirais qu'est-ce que tu veux savoir ?
Ça venait assez facilement. Mais ensuite, pour répondre à Gilles, je ne pense pas que les parents doivent se sentir devant parler de la sexualité, des pratiques sexuelles avec leurs enfants, parce que finalement, c'est pas une histoire de peur, c'est juste une histoire aussi d'être à l'aise. Et je pense que déjà aborder tout ce qui est notion de consentement, de respect finalement, juste de s'arrêter à ça, c'est déjà super intéressant et c'est très important. Donc pas trop se mettre de pression là-dessus.
Voilà, pas de pression. Valérie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pas de pression non plus chez vous, du côté des éducateurs, allez-y.
Oui, voilà, moi je voulais apporter mon témoignage par rapport à mon travail dans un IME, un institut médico-éducatif, où moi et mon collègue, nous avons été formés à l'animation de groupes de parole sur la vie affective et sexuelle. Donc nous avons été formés au CRS à Lyon, je ne sais pas trop si ça dit quelque chose à quelqu'un.
Ben, ça dit visiblement, Alice, c'est quoi le CRS ? Ouais. Ça veut dire quoi ?
C'est un centre de ressources.
D'accord, ok.
Qui est voué à la vie affective et sexuelle. D'accord. Et aux personnes handicapées.
Bon, ok.
Donc voilà, donc on anime un groupe de parole toutes les semaines depuis 4 ans. Et effectivement, nous, on a constaté que le consentement n'était, c'est un concept. Donc, du coup, pour des personnes en situation de handicap ou déficientes, c'est difficile d'y accéder, quoi. Mmh. Et la seule réponse, c'est l'éducation à la vie affective et sexuelle. Mmh. Donc c'est très important d'avoir cette notion d'éducation.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Valérie. Éducation, Alice, dit Valérie. Évidemment que le mot-clé, c'est éducation. Ça s'apprend, tout ça.
Oui, bien sûr, ça s'apprend. Et je trouve très intéressant d'avoir un témoignage de personnes qui travaillent avec des personnes en situation de handicap et qui sont déficientes, parce que le rapport au corps est aussi... hyper important pour des personnes qui sont en situation de handicap, et c'est souvent les premières personnes qui vont être aussi victimes de violences. Et au planning familial, on a un programme qui s'appelle Handicapé alors, où en fait on se forme en interne pour aller dans des structures, des foyers de vie, pour en fait faire des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle avec les personnes en situation de handicap, parce qu'elles ont une vie sexuelle et qu'il faut aussi lever ce tabou-là et pouvoir les accompagner à la fois sur les prises de risque, donc avec l'utilisation de la contraception, la question de la grossesse, mais surtout la question du consentement. Et pour témoignage, systématiquement, quand on est dans des animations avec des personnes en situation de handicap, la question des violences sexuelles, elle est omniprésente et il faut l'aborder.
Je suis professeur de SVT, nous dit Pascal sur franceinter.fr, dans un collège en partenariat avec l'infirmière. J'aborde la notion de consentement. Les élèves osent poser des questions très crues car ils veulent des réponses et sont souvent contents de trouver un adulte qui répond, surtout quand c'est tabou dans la famille. Marine,
Oui,
très
c'est
cru,
ça.
Poser la question pendant ces cours-là aux adultes qui sont en face et ne pas avoir peur de poser des questions qui peuvent paraître d'ailleurs très crues, mais qui au fond sont des questions finalement simplissimes parfois.
Oui, parce que finalement, en fait, à un stade, on est dans cette nécessité d'avoir des réponses et on veut des réponses qu'on pourra penser rationnelles et de bonne qualité, parce que quand on n'a pas de réponse de figure parentale ou de professeur, ce qu'on fait, c'est soit qu'on va on va commencer à en discuter avec nos amis qui, même si ce sont nos amis, en fait, ne pourront pas forcément nous apporter
les
conseils
les réponses,
dont on a besoin. Il y a toujours cette pression aussi collective de « moi j'ai fait ça ouais. Et toi t'es en retard
». Ouais.
Et ensuite, si on n'a pas assez d'informations, on va se retrouver sur des sites pornographique où là on se sent complètement complètement perdu. Donc je comprends cette détresse de la part des élèves, je pense, d'avoir ce besoin de poser des questions crues.
Allez, c'est la fin de cette émission, il faut vraiment y aller, mais je voudrais quand même vous lire à tous les trois ce mail sur franceinter.fr de Arnaud qui dit « Je suis abasourdi par le niveau de maturité et de clairvoyance de ces jeunes. » Voilà, bravo à eux, c'est ce qu'il vous dit, bravo à vous. Merci beaucoup à vous.
Merci
à toutes pour toutes vos questions, comme d'habitude. Portez-vous bien.